Nous sommes en train de faire une étude sur le guide de prière. C'est un guide de prière. C'est pour nous aider à prier, savoir quoi prier. Dans la Bible, la Bible nous explique, nous enseigne de prier pour plusieurs choses. C'est important qu'on passe à travers ces sujets-là parce qu'on va voir que, ben, premièrement, ça rouvre nos yeux pour voir jusqu'à où ce que Dieu va agir dans nos vies. Puis Dieu va agir à distance de notre foi. Avez-vous la foi que Dieu peut agir? Si vous n'avez pas la foi, vous ne prierez pas. Si vous avez la foi, vous allez vous mettre à prier. Parce que on peut savoir des choses que Dieu veut telle et telle chose, puis pas les demander.
Si on n'a pas la foi, ça
ne marchera pas. Si on croit pas que Dieu peut faire telle et telle chose, on le demandera pas. Puis si on se dit, j'ai assez, moi-même, de mon travail, dormir, manger, j'en ai assez, mais on verra pas grand-chose de plus. C'est ceux qui ont soif, ceux qui ont faim d'en voir plus, vont voir des choses se faire dans leur vie. Vont voir des miracles, vont voir des choses extraordinaires. Le sujet qu'on va voir ce soir, ce sujet-là, ça prend de la foi pour y croire. Puis, notre foi est basée sur quoi? Elle est basée sur la parole de Dieu. La Bible nous enseigne cette dimension-là de ce qu'on va voir ce soir. Puis, ce qu'on va voir ce soir, c'est vraiment le monde invisible à l'œuvre dans nos vies. Il y a des gens qui ont expérimenté ce qu'on va voir ce soir, puis ils en ont raconté des témoignages que ça a été écrit dans la parole de Dieu, puis il y en a qui l'ont expérimenté dans leur vie personnelle. C'est pas tout le monde qui va expérimenter ce qui est écrit là. Mais Dieu a un plan, puis Dieu peut le faire. Ce qu'il faut arriver à croire, c'est qu'il n'y a pas de limite dans l'accomplissement de la puissance de Dieu. La seule limite qu'on peut avoir, c'est celle qu'on s'impose nous-mêmes. Dieu peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons que la Bible dit. On a nos limites. Dieu peut agir d'une manière encore beaucoup plus grande. Il s'agit d'y croire, puis de s'attendre à ce que Dieu le fasse. Le sujet qu'on va voir ce soir, c'est croire et demander la protection de Dieu. On va voir une dimension de la protection de Dieu. On va voir des passages où ce que Dieu a promis à ses serviteurs de les protéger dans des moments spéciaux. Puis, il y a des gens qui l'ont expérimenté. Puis ça, c'est pour nous aider à voir jusqu'où Dieu peut aller dans nos vies. Amen. Dans la grâce de Dieu, nous bénéficions d'une protection divine dont Dieu entoure ses enfants. On a une protection que Dieu nous assure. C'est déjà écrit dans la parole, il y a déjà des versets. On va en voir quelques-uns ce soir au niveau de cette dimension-là, ce qu'on va voir. Puis j'espère que ça va toucher nos cœurs pour qu'on ait encore plus soif de voir la main de Dieu dans ces choses-là. On va comprendre le rôle des anges de Dieu, parce qu'on fait face souvent, plus souvent aux anges sataniques qui viennent nous attaquer puis nous faire du trouble, qu'on s'aperçoive que les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont autant là que les anges du diable. Le diable agit à tous les jours pour nous injecter des pensées, des tentations, faire des épreuves puis nous causer du trouble, pour nous enfarger dans notre vie chrétienne. Mais les anges de Dieu sont autant là, sauf qu'on les voit pas tout le temps, puis on sait pas tout le temps juste c'est quoi leur rôle autour de nous dans nos vies. Mais les anges de Dieu, selon ce que la Bible enseigne, ce sont des compagnons de service des croyants. On a-tu des compagnons de service, nous, croyants? Je pose la question. Ils sont où nos premiers compagnons de service?
Nos frères et sœurs.
Nos frères et sœurs. Comment est-ce qu'on s'aperçoit que ce sont nos compagnons de service? Parce qu'ils sont là autour de nous, puis on veille les uns sur les autres, on s'exhorte les uns les autres, on prie les uns pour les autres, on fait de l'œuvre ensemble, on sert le Seigneur dans l'église locale, on sert le Seigneur dans l'évangélisation ensemble. Donc, on est tous des compagnons pour servir le Seigneur.
Amen.
Ça, c'est ce qu'on On n'a pas de misère à y croire, puisqu'on se voit tous les jours, au moins toutes les semaines, disons. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. C'est pas dur à remarquer qu'on a du monde qu'on est supposé de travailler ensemble. Puis on travaille ensemble, puis on fait des affaires ensemble. Puis ça, on le constate. Mais Dieu veut nous faire comprendre quelque chose ce soir, qu'il y a d'autres compagnons qui sont là autour de nous, qui nous accompagnent dans notre service, mais on les voit pas. Puis qui font un travail nécessaire pour notre survie. Si ça ne serait pas que des anges de Dieu soient là autour de nous, puis intervenir quand c'est le temps, nous dire des choses quand c'est le temps, même si on ne les voit pas, il ne sera pas là, on ne sera pas là aujourd'hui en train de glorifier Dieu. Si on est vivant, c'est parce que Dieu nous a gardés vivants, puis il y a des esprits, des anges de Dieu qui combattent pour nous, garder puis nous assister dans le travail qu'on a à faire pour Dieu. C'est ce qu'on va voir. Les anges sont des compagnons de service des croyants. Ils exercent un ministère de protection et d'encouragement pour les croyants, pour nous. Ils interviennent dans nos vies régulièrement. Dans Apocalypse 22, le verset 9, quand l'apôtre Jean il a eu toute la vision de l'Apocalypse, puis il a vu l'ange qui est en train d'y parler, puis d'y révéler des choses, mais il a tombé à genoux devant l'ange. Lui, un ange, c'est sûr qu'ils sont plus puissants que nous, physiquement, corporellement, sont plus puissants que nous. Puis, devant cet ange-là, Jean, qui est un des 12 apôtres, il a tombé à genoux devant l'ange. Mais l'ange, il a dit, wow, t'as une minute, là. L'ange, il a répondu dans Apocalypse 22:9, mais il dit, garde-toi de le faire. Fais pas ça, là. Relève-toi de là, là. T'as pas d'affaire à te mettre à genoux devant moi. L'ange a dit ça à l'apôtre. Parce que l'apôtre, il était émerveillé de voir cet ange-là, puis de voir tout ce que cet ange-là lui montrait. Puis il dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. L'ange se déclarait comme étant quelqu'un qui est toujours en train d'accompagner l'apôtre Jean. Un compagnon, ça l'accompagne. Un compagnon, ça marche avec. C'est à côté, puis il t'aide. On marche ensemble, on n'est pas tout seul. Les anges de Dieu sont des compagnons de service. Pas pour mal faire, pour servir le Seigneur. Les anges de Dieu sont là pour nous accompagner dans notre vie chrétienne, puis dans le travail qu'on a à faire pour Dieu. Il n'y a pas gros domaine là-dedans. Il dit, garde-toi de m'adorer, lève-toi de là, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est quoi les paroles de ce livre?
C'est la Bible.
C'est la Bible. Ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment la Bible, mais sont accompagnés des anges de Dieu. Puis là, il dit, adore Dieu. Adore pas les anges. Prie pas les anges. C'est adore Dieu, prie Dieu. Mais les anges sont là, à côté de nous, pour notre protection, puis nous encourager, puis nous disent des choses, puis on s'en rend même pas compte. Mais il faut le réaliser qu'ils sont là. La Bible nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a vu plein de nouveaux statuts qu'on a en Jésus. On a vu de nouvelles positions, mais ça fait partie des bonus qu'on a en Jésus d'être accompagné des anges, puis d'être protégé par les anges. Puis même dans la parole de Dieu, il y a un verset qu'on a déjà lu, qu'on peut demander du secours à Dieu quand ça va mal. On l'a vu ça déjà dans le psaume 34, le verset 6 et 7. Ça dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Ça veut dire qu'on a une super belle promesse, que quand on est dans les problèmes, on a des difficultés, on peut crier à Dieu, puis Dieu va y entend nos prières, puis Dieu va nous secourir. Dans toutes nos détresses. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais le verset s'arrête pas là. Faut lire l'autre verset qui va avec. Vous allez voir que ça rentre dans le contexte de ce qu'on est en train d'étudier ce soir. Là, on vient de vous lire psaume 34, verset 6. Là, on va lire le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache du danger. Ça veut dire, le malheureux, il est dans le malheur. Là. Le malheureux, c'est quelqu'un qui est dans le malheur. Il souffre, il a de la misère, il se met à crier à Dieu. Puis il dit, Dieu va l'entendre, puis il va le délivrer de toutes ses détresses. Puis ça dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. Ça veut dire qu'autour de nous, il y a des anges qui ont établi leur campement. Ils campent une tente. Ils habitent là, c'est leur camp. Ils habitent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Êtes-vous de ceux qui craignent l'Éternel?
Oui.
Donc, vous avez des anges de Dieu à côté de vous. C'est pas ça que Jésus a dit, même pour un malheur à celui qui scandaliserait un des plus petits des enfants qui croient en moi. Il dit, leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les enfants qui croient en Dieu, ils ont déjà un ange à côté d'eux pour les protéger. C'est l'ange d'un ange envoyé par Dieu, un ange de l'Éternel, un ange pour le protéger, pour le défendre. Quand on est dans des combats, dans des situations qu'on a besoin d'une intervention, Dieu a mis un ange ou des anges autour de nous. C'est pas ça qui est arrivé aussi avec le prophète qui était sur la montagne, le prophète Élie, puis il avait Gehazi. Non, Élisée, puis il y avait son serviteur Gehazi qui était à côté. Puis là, il y a du monde s'en venait pour saisir le prophète. Puis le prophète il a dit à son serviteur, « Fais-toi-en pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont ensemble pour venir nous attaquer. » Fait que l'autre, il voyait pas personne, il voyait juste le prophète puis lui. Puis là, il a dit au Seigneur, « Seigneur, ouvre-y les yeux. » Les yeux sont ouverts, puis il y a eu plein d'anges, des chars de feu qui étaient sur la montagne, qui couvraient la montagne, plein d'anges de l'Éternel prêts à combattre. Ils sont là. C'est pas à cause qu'on vit des moments difficiles qu'ils sont plus là. Ils sont là, sont placés par Dieu, ils campent là, puis ils attendent des ordres de Dieu. Puis ils interviennent, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. Quand il y a un danger, on a besoin d'être secourus, ils sont là pour nous protéger. Amen. Amen. Êtes-vous content de savoir que vous avez des anges de Dieu à côté de vous? Oui, tout. Il y a eu des événements spéciaux dans la parole de Dieu dont Dieu a envoyé ses anges au secours de ceux qui croient en lui. Ça, là, faut l'écrire, faut le souligner, de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui espèrent en Dieu, de ceux qui se confient en Dieu. On va regarder un petit exemple rapidement pour des trois compagnons de Daniel, qui ont été sauvés de la fournaise ardente. C'était Shédrach, Meshach et Abednego. Dans Daniel, chapitre 3, le verset 21, à partir du verset 17. Bon, vous le lire rapidement. Voici, parce que là il y a Nébuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, lui, il avait conquéri les territoires, puis ça lui a monté à la tête, puis il se pensait, grâce à son pouvoir, puis ça, qu'il avait réussi à conquérir la terre, qui est de la terre habitée dans ce moment-là. Puis là, il a décidé de faire une grosse statue en or, le représentant, puis là, il a ordonné que tout... Les musiciens étaient pour jouer de la musique, puis au son de la musique, tout le monde devait se mettre à genoux devant la statue, sauf que les Juifs, eux autres, ils servaient l'Éternel, puis ils craignaient l'Éternel, puis il n'était pas question qu'ils se mettent à genoux devant cette statue-là. Puis ils avaient refusé de se mettre à genoux devant la statue. Puis là, Nébuchadnezzar, il est orgueilleux, faut le dire, là. Il a monté à la tête, son rôle qui... Puis, Là, il les a fait venir, ces trois compagnons de Daniel, puis il leur a dit, là, je vous redonne une autre chance de pouvoir vous mettre à genoux, sinon, si vous ne mettez pas à genoux, je vous jette dans la fournaise ardente. Puis eux autres, ils ont, puis, il dit, puis là, en plus, il a ajouté, et quel Dieu va être assez puissant pour vous délivrer? Puis là, c'est de la manière qu'eux autres, les trois compagnons de Daniel, ont répondu à ce gars-là. Ils ont dit, au verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. » Wow! C'était le Nébuchadnezzar, là, celui que tous les royaumes de la terre avaient fléchi le genou devant lui. Puis lui, un simple juif, il était trois, ils ont dit, « Mon Dieu que cher, il est capable de me délivrer, puis il va me délivrer de ta main. Sinon, s'il ne me délivre pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, puis nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Là, Nébuchadnezzar, au verset 19, il dit, « Il fut rempli de fureur. Il était enragé noir. » Il venait de se faire insulter devant tout le monde là, par trois juifs qui ne voulaient pas plier le genou pour obéir à ses ordres. Puis il changea de visage en tournant ses regards vers Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole puis ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Ça veut dire qu'ils l'ont chauffée à bloc, la fournaise. Puis il commanda quelques-uns des plus vigoureux de ses soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego puis de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, puis les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère, puis que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'était tellement fort comme flamme qui sortait de cet endroit-là, qu'en rouvrant la porte, les gardes sont morts par la flamme qui est sortie. Puis là, ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nébuchadnezzar fut effrayé, puis se leva précipitamment, puis prit la parole, puis dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Puis il répondit au roi, « Certainement au roi. » Puis il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui ont point de mal, puis la figure du 4e ressemble à un des fils des dieux. » Wow! Dieu il a envoyé son ange pour libérer ses 3 serviteurs. Dieu a répondu à la prière de ses serviteurs, puis ils ont été secourus dans leur malheur. Puis là, ensuite, Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole, il dit, là, il parle à Shadrach, Meshach et Abednego, « Serviteurs du Dieu suprême, sortez puis venez! » Là, il les a fait sortir de là. Puis Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent puis virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur de feu ne les avait pas atteints. Wow! Les gardes sont morts en ouvrant la porte, puis eux autres, ils ont marché au milieu du feu, puis ont été protégés par un ange de Dieu. Nébuchadnezzar prit la parole et dit, hey, là, le roi, il a changé d'air. Puis là, il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel il a envoyé son ange, puis a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ça, c'est ça qu'il faut souligner. Le sujet qu'on est en train d'étudier, croire et demander la protection de Dieu. Dieu répond à ceux, à ses serviteurs qui ont confiance en lui. Il faut apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Dans nos malheurs, nos difficultés, nos problèmes, nos combats, nos luttes, faisons confiance que Dieu peut envoyer un de ses anges, puis nous protéger. dans le malheur, dans un accident, n'importe quelle chose qui peut arriver. Croyons que Dieu peut envoyer un de ses anges puis nous protéger. Ils ont violé l'ordre du roi, puis ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Wow! Ça, c'était des gens décidés à vouloir servir leur Dieu, puis à faire confiance en leur Dieu, puis il n'était pas question qu'ils se mettent à genoux devant un faux Dieu pour épargner leur vie. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, puis ils croyaient que Dieu pourrait les délivrer même de la main de ce méchant Nebuchadnezzar qui, en passant, s'est converti au Seigneur par la suite, en voyant la puissance de Dieu à l'œuvre. Un autre événement qu'on voit aussi dans Daniel, au chapitre 6, les versets 20 et 23, c'est lorsque on a entendu assez régulièrement cette histoire-là, de Daniel dans la fosse au lion. C'est vraiment un événement qui s'est produit, ce que des gens jaloux de Daniel, parce que Daniel, qui était un des compagnons de Shadrach, Meshach, Abednego, puis là, c'était plus dans le temps de Nébuchadnezzar, c'était dans le temps d'un autre roi par la suite, puis le roi des Mèdes et des Perses qui avait renversé le royaume de Babylone. Puis, ce roi-là, il y avait du monde jaloux de Daniel, parce que Daniel, lui, était il était en tête de toutes il était surintendant des surintendants. Il était en tête de tous les magiciens, les astrologues, de tous les gens, parce qu'il avait une sagesse encore plus grande que tous ceux qui servaient dans ce pays-là. Puis, là, il y a du monde qui était jaloux de Daniel, puis ils ont organisé en ruse, un moyen de faire condamner Daniel. Parce que Daniel, il priait Dieu trois fois par jour, il se mettait à genoux, puis il priait le matin, midi, soir, priait son Dieu, à le visage en direction de Jérusalem. Puis, ceux qui étaient jaloux de Daniel, ils ont été voir le roi, puis ils ont fait ordonner au roi un édit comme quoi, qui interdisait quiconque dans tout le pays de prier un autre Dieu ou prier qui que ce soit autre que le roi lui-même. Puis le roi, il avait signé ça, mais il n'a pas compris la manigance de ces gens-là, puis il avait mis son sceau sur ce papier-là. Puis là, l'ordre était passé, puis Daniel, sans se laisser arrêter par cet édit-là, continuait à prier Dieu trois fois par jour, jusqu'au moment où ce qui s'est fait pogner en train de prier Dieu. Puis c'est là qu'on arrive dans cette histoire-là. Daniel a continué à prier Dieu, même s'il avait entendu que si on continuait à prier un autre Dieu, on serait jeté dans la fosse au lion. Daniel n'a pas eu peur, il a continué à servir et à prier son Dieu, comme qu'il le faisait auparavant. Puis en fin de compte, il a été pogné, il a été jeté dans la fosse au lion. Daniel, il était aimé par ce roi-là. Ça lui a fait de la peine à ce roi-là que Daniel se fasse pogner dans cette manigance-là. Puis quand Daniel a été jeté là, le roi, il n'a pas dormi de la nuit. Puis il est allé voir Daniel tout de suite le lendemain matin pour voir s'il est encore vivant. Puis regardez bien qu'est-ce qu'il a dit à partir du verset 20 dans Daniel chapitre 6. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Puis Daniel lui a répondu, Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange. » Hallelujah! Il a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, puis il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ça avait que c'est encore écrit. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Dieu a envoyé un ange pour le protéger. Puis ça nous dit que ce roi-là, il a ordonné que tous ceux qui avaient manigancé pour faire lier Daniel, Il les a toutes pris, eux, ces gens-là, et leur famille, puis ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Puis ils n'ont même pas tombé à terre, ils n'ont même pas touché le sol, que les lions ont sauté dessus, puis ils ont été mis en pièces par les lions. Dieu a quand même fait justice à son serviteur en le protégeant, en envoyant son ange pour le protéger. Puis ça, là, ce qu'on voit, on voit ça dans les écrits de l'Ancien Testament, mais ça s'est revu aussi, ces choses-là, dans le Nouveau Testament. C'est des choses que la Bible nous parle dans le Nouveau Testament, que les anges interviennent encore dans des situations. Comment est-ce qu'on voit ça? Jésus lui-même a profité des bienfaits apportés des anges. Dans Jean 1, 51, ça nous dit, Jésus qui est en train de parler, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus est en train de dire à ses disciples, « Vous allez voir les anges de Dieu venir faire du ministère. Ils vont vous apparaître, puis vous allez voir qu'ils viennent pour intervenir dans ma vie. » C'est ça qu'il est en train de leur dire. On a-tu vu ça quelque part? Oui, dans Matthieu 4:11, ça nous dit que lorsque Jésus a été tenté par le diable dans le désert, ça nous dit alors, quand que Jésus a résisté aux tentations, ça dit « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Fait que les anges étaient en train d'exercer un ministère, puis ils aidaient Jésus dans ses moments difficiles, ils l'aidaient dans ses combats, ils l'aidaient aussi dans les moments qu'il a besoin d'être réconforté. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans Luc, chapitre 22, les versets 42 et 43. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, en train de prier, il était sur le bord d'être livré puis de se faire assassiner, puis il était dans le jardin en train de prier, puis il suait des grumeaux de sang. Ses disciples étaient endormis, il avait de la misère à prier avec lui. Dans Luc 22, 42, 43, puis là, Jésus, quand il priait, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe de souffrance qu'il est en train de vivre là, c'était terrible. Quand t'es rendu, tu sues du sang, il est en proie, en agonie. Ça dit qu'il est angoissé, puis il capotait. C'était pas facile, son combat. Puis là, il voulait que Dieu éloigne de lui cette coupe. Il dit, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Ça dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Oups, voyez-vous l'intervention des anges? Dieu permet que des anges qui viennent nous dire des affaires pour nous encourager, nous fortifier. Là, il a apparu, mais Dieu n'envoyait des anges nous dire des choses dans nos rêves, dans notre journée, des paroles qu'on entend pour nous encourager. Dieu nous lâche pas. Son Saint-Esprit nous en dit aussi, mais ses anges aussi sont là pour nous encourager. Ils ont un ministère de protection et d'encouragement. Ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là quand ça va mal. Des fois, on dit, oui, c'est Dieu qui nous porte dans ses mains. Oui, mais il y a les anges de Dieu aussi qui sont là. On n'est pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, mais les anges de Dieu sont aussi là tous les jours. Faut croire à ce qui est écrit. C'est pour ça que si on croit, on va avoir plus d'occasions, peut-être, si Dieu le veut, qu'on envoie des anges. Et pourquoi pas? La Bible ne dit pas, à quelque part, d'exercer l'hospitalité, parce qu'en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont logé des anges sans le savoir. Fait que Dieu peut mettre une personne pauvre sur son chemin, puis en réalité, c'est un ange de Dieu, puis en réalité, c'est pour te mettre à l'épreuve, pour voir si tu vas y en prendre soin. Fait que Dieu, il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire, mais il faut croire, il faut avoir l'esprit ouvert, puis s'attendre à son secours. Un autre bel exemple d'un secours des anges dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Pierre. Il avait été, dans cette période-là, il y avait des persécutions contre les chrétiens, puis les disciples, il y en a quelques-uns qui ont été mis en prison, puis un des 12 apôtres, Jacques, le frère de Jean, s'est fait assassiner par les Hérodes dans cette période-là. Puis il a fait aussi arrêter Pierre. Fait que tout le monde avait peur que Pierre était pour y passer lui-ci. Si on voit ça dans Actes 12, les versets de 1 à 5. Il dit, en même temps que Jacques est assassiné, le roi Hérode se met à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église, puis fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit aussi encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Puis après l'avoir saisi, puis jeté en prison, il a mis sous la garde 4 escouades de 4 soldats chacune. Fait qu'il y avait 16 soldats en train de garder Pierre dans prison, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, puis l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On voit que l'Église croyait que Dieu est tout-puissant puis est capable de le délivrer. Il venait de vivre que Jacques se fasse assassiner, mais il ne voulait pas laisser tomber Pierre. Puis là, il priait. Il priait. Il ne lâchait pas de prier pour que Pierre puisse être délivré. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit ça dans Actes 12, les versets 6 à 9. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Mais il était 16 qui était là. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Alléluia! Les anges de Dieu. Il y en a un qui a apparu. Puis une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté en disant, « Lève-toi rapidement, là. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi, puis l'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau, puis suis-moi. » Pierre sortit, puis il le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Puis lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Puis elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu, puis à la puissance des anges de Dieu. Puis ils sortirent, puis ils s'avancèrent dans une rue, puis aussitôt l'ange le quitta. Mais ça, c'est une action surnaturelle que Dieu peut délivrer ses serviteurs, même si tu seras en prison. Oui, il y en a eu beaucoup de chrétiens qui sont restés en prison. Comme Jacques, il s'est fait assassiner. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne délivre pas personne. C'est ça qui est le point qu'il faut retenir. Puisqu'il a délivré Pierre, il a envoyé son ange, mais l'Église ne cessait de prier pour qu'il s'en sorte. Voyez-vous, il y a quelque chose là. Tout à l'heure, je vous lisais des passages dans l'Ancien qui disaient « Dieu délivra ceux qui croient en lui. » Puis Pierre, il a été délivré parce que l'Église croyait que Dieu était capable de le sortir, puis il lâcha pas de prier pour qu'il sorte. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Voulons-nous voir la puissance de Dieu? Voulons-nous s'attendre puis voir les anges de Dieu à l'œuvre dans nos vies? Croyons-le que ça fait partie de la parole de Dieu. Ça fait partie des choses que Dieu a déjà faites puis que Dieu peut faire encore. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Mais prions dans ce sens-là afin de le voir. Amen.